me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel a été le rôle des sciences et de l'histoire sociale pour redécouvrir les textes de la culture ouvrière et syndicale, la parole des femmes, les cultures de l'autonomie? Pourquoi faut-il réévaluer les résistances ouvrières? Quelle a été la place des hors-systèmes, ces marginaux séquents comme on disait à l'époque? Comment, de façon inattendue, au milieu des années 1970, la notion alors désuète de libéralisme est-elle redevenue centrale? Nous poursuivons ce matin l'exploration du grand laboratoire intellectuel des années 1970 en compagnie de Pierre Auzon-Vallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique. Dans un contexte de grandes échéances électorales en 2017 et de grignotage de la démocratie, alors qu'il faut organiser le pessimisme, l'historien du politique, qui n'a cessé d'interroger les enjeux et les paradoxes de la démocratie, de ses années de formation au milieu des années 60 à la publication en 2015 du Bon Gouvernement, Pierre Auzon-Vallon a choisi de revisiter à la fois en tant qu'analyste et acteur l'effervescence et les recherches qui ont suivi la révolution de mai. Sur 2 ans, il propose une histoire intellectuelle et politique des années 1968-2018. Ce grand laboratoire des années 70 s'est notamment penché sur le travail avec André Gorz, sur l'histoire sociale qui a été l'occasion de redécouvrir des trésors, nous dit Pierre Auzon-Vallon, citant la revue Le Mouvement Socialiste, citant aussi le Musée Social, les brochures saint-simoniennes, toutes traces des cultures autour de l'autonomie et des résistances ouvrières à la manufacture. C'est la nuit des prolétaires de Jacques Rancière et c'est le temps aussi des publications nouvelles, telles Traverse où brillent les Certeaux, Virilio, mais aussi Annette Messager. Pierre Auzon-Vallon revisite cette effervescence intellectuelle entre souvenirs tendres et regards critiques. Il note que ses travaux sont le fruit des marginaux séquents. Lui-même se définit comme un universitaire atypique. Revenons dans un ouvrage collectif consacré à ses travaux et paru sous le titre « La démocratie à l'œuvre », Pierre Auzon-Vallon revient sur son élection à l'UHESS en 83 et il rend hommage à ses brillants compagnons hors système. Et je le cite. Au début des années 1980, l'UHESS était encore une sorte de club dont les membres se lisaient les uns les autres. C'est l'idée d'une culture commune des sciences sociales qui fondait son identité. Ce qui la rendait ouverte aux personnalités qui ne rentraient pas dans les cadres universitaires usuels. Elle avait ainsi accueilli dans les années 1970 Claude Lefort, qui ne trouvait pas sa place à l'université, Cornelius Castoriadis, qui officiait à l'OCDE, ou Milan Kundera, qui venait de s'exiler et n'avait pas encore rencontré le succès que l'on connaît. C'est dans ce contexte que Claude Lefort et François Furet prendront l'initiative de ma présentation avec le soutien actif de Castoriadis, Alain Touraine et Pierre Vidal-Naquet. Ce laboratoire des années 70, c'est aussi la figure de Michel Foucault, lui aussi professeur au Collège de France, qui s'est penché sur la question du libéralisme, dont Pierre Auzon-Vallon rappelle le retour inattendu de cette notion au milieu des années 70, cette notion au parfum britannique, spectre d'un âge prédémocratique lié à Benjamin Constant et qui semblait jusque-là loin des réalités et du vocabulaire de la période. Comment comprendre dès lors ce moment, ce retour du libéralisme? et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui, effervescence intellectuelle et retour du libéralisme.
Dans tout ce bouillonnement, et avec ses multiples rééditions, c'était aussi d'autres figures et d'autres traditions du mouvement ouvrier qui apparaissaient. Des figures comme Pelloutier, comme Pouget, comme Griffule, qui redonnaient vie au moment du syndicalisme révolutionnaire et à sa vision de l'autonomie ouvrière et de l'action directe. Autour de moi, nous relisions aussi passionnément une revue du début du XIXe siècle qui avait pour titre « Le mouvement socialiste », que nous découvrions alors avec beaucoup d'autres trésors sur les étagères d'une bibliothèque non loin d'ici qui s'appelle le Musée Social et dont la bibliothécaire était Colette Chambellan, la fille de l'une des plus grandes figures du syndicalisme révolutionnaire. En même temps que nous redécouvrions tous ces textes sur, justement, la culture de l'autonomie. Et c'est aussi au plus obscur, en faisant toute sa place à la parole des femmes notamment, que s'est intéressée à partir de 1975 les Révoltes logiques, une revue qui était animée par Jacques Rancière, qui fera lui-même plus tard revivre dans ce livre « La nuit des prolétaires », sous-titré « Archives du rêve ouvrier », les voix exprimées par de minces éphémères brochures, notamment dans son cas des brochures saint-simoniennes. Et au moment où un ami historien m'avait conseillé de lire l'ouvrage de Thomson, qui ne sait en anglais parce qu'il n'a été traduit que très tardivement, de façon un peu incompréhensible. Gortz venait de publier « Critique de droit du travail », ouvrage dans lequel il faisait connaître toute une série de travaux novateurs sur les conditions dans lesquelles le système des manufactures avait été mis en place pour rassembler et contrôler une population qui travaillait précédemment à son rythme à domicile. Ce qu'on appelait le putting-outing system. Et cette histoire conduisait à réévaluer le sens de la résistance ouvrière en montrant que c'était l'organisation d'une dépendance radicale qui était repoussée au premier chef dans le développement des manufactures par ceux qui craignaient, avec la manufacture, de voir leur travail ainsi déqualifié. Cette résistance avait été d'autant plus forte en Angleterre que le rythme de l'industrialisation y avait été rapide. J'étais alors en contact avec beaucoup d'historiens pour alimenter les pages de la revue CFDT aujourd'hui que je dirigeais. Il me paraissait essentiel de creuser cette question de l'organisation de la dépendance et du salariat. J'avais alors appris à ma grande surprise que la lenteur du mouvement d'industrialisation aux États-Unis, relativement à la situation européenne, s'expliquait justement dans ces termes. Aux États-Unis, il a ainsi fallu attendre 1814 pour que soit créée la première manufacture textile du pays, à Lowell, dans le Massachusetts. Et le fait intéressant, dans ce cas américain, était que ce retard n'avait pas été le fait du hasard. Il avait été largement dû à la difficulté de trouver du personnel volontaire et disponible pour travailler dans ce type d'établissement. On pouvait même parler d'une résistance sociale, aussi diffuse que généralisée, du développement des manufactures dans ce pays. En avait témoigné le très intéressant « Report on the Subject of Manufactures » qui avait été publié en 1791 par un des pères fondateurs de la Constitution américaine, Alexander Hamilton. C'est dire que le sujet apparaissait central pour les pères fondateurs, pour qu'il y consacre un rapport important. Dans ce rapport, il avait justement analysé les causes de la résistance à ce travail en usine et réfléchi aux moyens qu'il pouvait envisager pour la surmonter. Le sujet était en effet très préoccupant pour le gouvernement américain qui craignait de voir la jeune nation prendre économiquement du retard par rapport au vieux continent. Et le problème avait deux dimensions pour Hamilton. La première, sociale, résidait dans l'aspiration dominante des habitants du pays à l'époque, être propriétaire indépendant d'une terre. Et la seconde, économique, en dérivait, c'est l'agriculture qui était considérée comme le moteur de la production des richesses dans un pays où il y avait des territoires immenses à développer. Les émigrés, les immigrants, alors nombreux, se dirigeaient ainsi prioritairement vers ce qu'on appelait les « unsettled parts of the country ». Et tout habitant savait qu'il lui était facile d'accéder à la position de travailleur indépendant de cette façon. Et près de 90% des hommes étaient de la sorte « on their own » dans l'Amérique de cette fin du XVIIIe siècle. L'idéal de liberté paraissant naturellement lié à cette forme d'autonomie. Hamilton en avait tiré comme conséquence que les manufactures ne pourraient se développer que si elles faisaient appel à une main-d'œuvre qui était jusqu'alors restée cantonnée dans la sphère domestique, les femmes et les enfants. Et c'est de fait en recourant à ces derniers que l'industrie textile avait pu commencer à prendre à Lowell son essor. Essentiellement, si j'ai dit qu'il y avait une fondation en 1814 pour le développement, essentiellement à la fin des années 1820. Et c'est ce qu'on appelle les mill girls, c'est-à-dire les filles de l'usine, qui représentaient à l'époque 80% des salariés de ces fabriques. Et les termes de salariat et d'esclavage se superposaient pour cela fréquemment dans l'Amérique de la première industrialisation. Le salariat renvoyait en effet en partie à l'ancien indentured labor, qui liait disciplinairement l'employé au patron, pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 7 années avant l'adoption de la Constitution. Et que Orestes Brownson, qui était un des essayistes influents de la période, publia alors une série d'articles dans lesquels il opposait le free labor, qui était au cœur pour lui de l'idéal américain, et le salariat. C'est le salariat qui était pour lui le problème. La pauvreté n'était qu'un effet dérivé et secondaire du salariat. Il n'hésitait pas à parler, en ce sens, du salaire comme d'une ruse diabolique. Il considérait que l'esclavage était même, en fin de compte, préalable, préférable au salariat. Et bien des propagandistes du Sud assuraient d'ailleurs à ses ouvriers qu'ils étaient plus maltraités que les esclaves noirs. C'est-à-dire que toute une partie de la propagande esclavagiste reposait sur la prétention de voir le travail de l'esclave plus doux que le travail du salarié en usine. Ce sera d'ailleurs un thème extrêmement fréquent dans la littérature européenne des années 1830 à 1850, que ce thème de l'esclavage préférable au travail en usine. Et ce thème-là, on le verra de Marx à Lamennais, répété sur tous les tons. Lamennais, qui était l'auteur, vous le savez, d'un livre qui avait pour titre « L'abolition de l'esclavage moderne ». Toutes ces approches de l'autonomie, toutes ces approches de la dépendance me semblaient donner une profondeur de champ très éclairante à l'idée d'autogestion comme forme générique d'une émancipation radicale. Et dans les discussions de fond que la CGT et la CFDT menaient en 1971-1972 pour tenter de surmonter l'abîme qui s'était créé entre les deux organisations en 1968, Edmond Maire avait, dans cet esprit, fait référence à la nouvelle actualité que l'on pouvait donner à l'objectif d'abolition du salariat, reprochant à la CGT d'avoir effectivement biffé de ce statut l'expression qui figurait depuis le XIXe siècle dans leur article premier. Et cela avait d'ailleurs agacé prodigieusement Henri Krasucki et Georges Segui de voir Edmond Maire tenter de leur donner des leçons de marxisme et d'histoire du mouvement ouvrier. Car de façon maligne, nous n'hésitions pas à nous référer à l'auteur du Capital pour légitimer notre ligne autogestionnaire. Et c'est la période où j'ai exploré à fond son œuvre historique, autant que théorique, pour nourrir ses argumentaires aussi. Voilà donc les personnes, et voilà donc les thèmes de l'histoire sociale qui semblaient nourrir toute cette réflexion sur la culture politique, cette réflexion sur l'autogestion. Ces réflexions avaient une caractéristique, c'est qu'elles étaient menées en dehors du milieu universitaire traditionnel. Dans les années 1970, on le voit à partir de la question des revues, je lisais bien sûr les revues classiques, dont Esprit et les temps modernes représentaient les deux vaisseaux amiraux. Dans l'après-68, la première, Esprit, jouera un rôle essentiel dans la diffusion des analyses critiques de la société industrielle. Et c'est Esprit, d'ailleurs, qui introduira en France l'œuvre d'Illich, avant d'être, à partir de 1976, dans sa refondation en quelque sorte, l'un des principaux espaces de la critique du totalitarisme. Et la revue Les Temps modernes, elle, de son côté, retenait en tout cas pour moi surtout l'attention pour les dossiers qu'elle consacrait aux questions internationales. Mais c'était aussi des publications nouvelles qui aiguisaient la curiosité et paraissaient particulièrement excitantes, au sens précis du terme, de ce qui augmente la perception et stimule l'activité. Je pense notamment à Traverse, publié par le Centre de création industrielle du Centre Pompidou à partir de 1975. Michel de Certeau, Paul Virilio et Jean Baudrillard y donnaient le ton. Mais cette revue, publient en même temps des écrivains comme Georges Perec, Henri Michaud, Roger Caillois ou Italo Calvino. Elle donnait la parole à des artistes comme Annette Messager ou Jacques Monory, et aussi une pléiade d'universitaires parmi les plus intéressants de la période. La revue abordait surtout le monde de façon transversale, comme son titre l'indiquait. Elle bousculait les frontières disciplinaires, s'emparait de sujets non cartographiés, mais dont on se demandait immédiatement pourquoi ils n'avaient pas été traités plus tôt. Je donne quelques titres célèbres de ces numéros spéciaux. Ville panique, réseau, le reste, le simulacre, la séduction. J'ai longtemps précieusement conservé ces numéros illustrés de façon originale, car ils invitaient à regarder le monde autrement, à mesurer ce qui était disponible et malléable, à mieux discerner les nouvelles ruses du capital ou de la marchandise, à prendre en compte aussi l'importance des énergies faibles. Et la revue Recherche, au pluriel, publiée par le CERFI de Félix Gattari, avait de son côté apporté un sang neuf aux études historiques. Après une première période de la fin des années 1960, qui avait été surtout consacrée aux questions de pédagogie et de psychiatrie. Je rappelle que Gattari dirigeait alors, avec Fernand Henry, une célèbre clinique, la clinique de la Borde, près de Blois. Dans cette revue de recherche, un certain nombre de numéros resteront fameux, qui ont pour titre « L'haleine des faubourgs »,« Aimez-vous les stades ?»,« Le soldat du travail », »,« Les équipements du pouvoir », »,« Le petit travailleur infatigable ». Ces dossiers ont alors renouvelé l'histoire de l'hygiénisme et celle des équipements collectifs, mis en lumière des aspects méconnus de l'acclimatation du taylorisme en URSS, attiré l'attention sur l'importance de la politique des corps. Tout était neuf dans ce que traitait cette revue, par ses objets et ses méthodes, son ouverture aux plumes étrangères, peu fréquentes à l'époque. Ceux qui dirigeaient la revue lanceront d'ailleurs une maison d'édition qui s'appellera Ancre. Et c'est dans le cadre de cette maison d'édition que seront publiés les 5 volumes de Zeldin consacrés à la France, ainsi qu'un volume qui reste une référence absolument majeure pour l'histoire de l'État français, le livre de François Fourquet, qui était fondé sur les interviews de tous ceux qui avaient été des hauts fonctionnaires entre 1945 et 1970. À côté de ces revues-là, il y avait aussi, pour une partie, c'était d'ailleurs des gens de l'équipe de recherche, la revue Urbi, la revue Dialectique, la revue Autrement, en même temps que beaucoup de nouveaux éditeurs émergeaient. Cette effervescence intellectuelle, dont je ne donne que quelques exemples, qui sont piochés dans mes souvenirs de lecture et mes découvertes, avait pour caractéristique de se passer aux portes de l'université. Même si Nanterre, puis Vincennes, avait apporté un peu d'air frais dans ce milieu. C'était l'âge de ceux que la sociologie appelait les marginaux séquents, des chercheurs sous contrat, que le commissariat au plan, le ministère des Affaires sociales ou le ministère de la Culture faisaient vivre. Et quelques-unes des personnalités les plus remarquables de ces milieux n'accéderont pas, ou que très tardivement, à une position régulière au CNRS ou à l'université. Du côté des universitaires même, c'était les plus atypiques qui comptaient. Le Collège de France était une terre d'asile pour quelques hérétiques consacrés de haut vol, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier Foucault. Et le HESS, de son côté, qui venait de s'autonomiser en 1975, était de son côté un repère pluridisciplinaire de gens attachés à écrire leurs livres et à discuter ceux du voisin dans une ambiance que l'on disait alors de cross-fertilization, au sein de petits séminaires à l'allemande. Je me souviens, bien avant que je sois invité à y rentrer, que Touraine m'avait dit « L'école des hautes études, c'est un endroit où on discute les livres qu'écrit le voisin. » Et c'était donc un milieu du type de cours qui se dispensait à l'université. C'est d'ailleurs un fait symptomatique qu'il faut rappeler. Le maître fondateur de l'école des hautes études, Fernand Braudel, avait été jusqu'à dispenser de faire de thèse ses jeunes recrues les plus brillantes, Pierre Bourdieu, François Furet, Jacques Le Goff, Jean-Paul Aron, pour ne citer qu'eux. Il leur avait dit « Ne faites pas une thèse, écrivez plutôt des livres intéressants », afin que ces personnes se consacrent tout entier à une production libérée des carcans académiques formels. Il faut dire que c'était l'époque des grandes thèses de doctorat ès-lettres et sciences humaines qui absorbaient toutes les énergies, souvent au moins jusqu'à 45 ans, et qu'après les quelques années de repos après le travail de la thèse, la productivité pouvait en souffrir. Castoriadis sera ainsi élu à l'école des hautes études, alors qu'il n'avait aucun background universitaire. Il avait simplement été responsable des études économiques à l'OCDE, puis psychanalyste indépendant. C'est comme cela aussi que Milan Kundera, réfugié de Tchécoslovaquie, trouvera sa place à l'école des hautes études. Et cette capacité d'accueil de personnalité atypique restera pour moi une des caractéristiques centrale de l'école des hautes études jusqu'à l'aube des années 1990, que je vivrai, puisque j'ai eu la chance d'y être élu en 1983. C'était du même coup à la fois ces grandes figures intellectuelles, ces lieux que j'ai mentionnés, ce renouveau de l'histoire sociale, ce qui se faisait de neuf et d'intéressant. Et tout autre sera, nous le verrons, l'atmosphère des années 80. Mais il y aura dans ces années 1970 un autre phénomène intellectuel très important, c'est celui de la réflexion sur la question du libéralisme. La question du libéralisme, à partir du milieu des années 70, deviendra une question perçue comme centrale, et notamment perçue comme centrale par Michel Foucault, qui donnera des cours ici. Ce terme apparaissait alors loin des réalités et étranger au vocabulaire de la période. Il faut le rappeler pour prendre la mesure de cette rencontre et de sa signification. Libéralisme avait en effet alors une consonance désuète. Il sentait le renfermer, relégué très loin dans les mémoires. Il appartenait à l'histoire et au langage du XIXe siècle. Dans l'ordre politique, il avait un petit parfum britannique, renvoyant à l'atmosphère feutrée des clubs et à leurs fauteuils de cuir patinés, à l'image d'anciens débats parlementaires entre gens du même monde, au gouvernement aussi d'élites loin du peuple, un âge prédémocratique, en un mot. En France, pour ceux qui connaissaient un peu d'histoire, ils rappelaient les combats de la Restauration au tournant des années 1820. Le nom de Benjamin Constant était le seul de cette époque à surnager pour les évoquer. Un des plus fameux périodiques de la période, le Globe, l'assimilera vaguement, je cite, « au principe de liberté professé en toute franchise et en toute rigueur, poussé à toutes ses conséquences ». Ce n'était en effet pas tant une doctrine positive, définissant des tâches à accomplir pour l'avenir ou dessinant des institutions à établir, qu'une bannière de résistance et d'espérance, derrière laquelle se rangeaient ceux qui défendaient les principes de 1789, alors attaqué de toutes parts, et plus largement, tous les impatients des nouvelles générations. Pierre Leroux parlera en ce sens, je le cite, de la grande conjuration du libéralisme adolescent, pour qualifier le groupe de ses amis entrés avec lui en charbonnerie. Le libéralisme participait ainsi d'abord d'une culture politique critique. Il était de l'ordre d'une religion et pas d'une théorie, dira Pierre Larousse, plus tard, qui avait le sens des mots. Rappelant cette période, le même résumera bien les choses en disant « Le libéralisme fut un combat et sa vie une armée ». La chute de Charles X en 1830 le vida du même coup en grande partie de sa substance, de différentes manières. Ceux qui avaient abandonné au début des années 1820 leur rêve politique de Carbonari, après l'échec des complots qu'ils avaient fomentés, avaient reporté leurs espérances sur le terrain de la lutte des idées. Puisqu'on ne pouvait pas changer le présent, on allait préparer l'avenir. Telle avait été leur devise. C'est dans cette perspective qu'un Pierre Leroux s'était précédemment lancé dans l'aventure du Globe qu'il avait piloté. L'avènement du régime de Juillet rebattra les cartes en les faisant revenir à leurs premières attentes. Plus de libéralisme impuissant, lancera alors Pierre Leroux pour saluer le passage de la publication à la doctrine saint-simonienne, transportant ainsi cette publication du terrain mouvant de la critique, dira-t-il, à une action positive de construction de l'avenir. L'idée centrale chez Saint-Simon et Auguste Comte, qu'un âge organique allait était prêt de succéder à un moment critique, exprimera bien le basculement de cette partie la plus engagée de la génération de 1820. Elle ouvrira tout simplement l'espace intellectuel du socialisme comme projet de construction d'une société régénérée. Du côté des vainqueurs de juillet, les Thiers et les Guizot, l'heure sera venue d'occuper les places et de gouverner le pays. Pour eux aussi, le moment libéral sera passé. En témoignera le fait que la production intellectuelle de ces messieurs sera brutalement tarie. Tous les grands textes, caractéristiques de l'esprit libéral, dus à la plume des Donou, des Guizot, des Constant, pour ne citer qu'eux, avaient significativement été concentrés sur les moments de basculement menaçant de l'histoire. Le retour de Napoléon en 1815 et le tournant réactionnaire de 1820. Ce sera d'ailleurs significativement la même chose un demi-siècle plus tard, dans la lutte contre le Second Empire. C'est seulement dans ces moments critiques que seront réactivées en France les idées libérales. Pour le Second Empire, on peut mentionner bien sûr les œuvres de Laboulaye, de Prévost-Paradol et de Tocqueville, dont l'Ancien Régime et la Révolution sera un des grands textes de la période. Ces hommes, comme ceux qui avaient été les écrivains des années 1820, deviendront ensuite des conservateurs assumés. Ils se préoccuperont surtout de maintenir leur position. C'est un esprit de résistance au changement qui les animera et les caractérisera désormais, selon leurs propres termes, d'adeptes d'une politique de résistance. Et le terme de libéralisme, avec le type d'énergie qu'il mobilisait, avait du même coup perdu sa consistance et son attrait des deux côtés, du côté gauche comme du côté droit, pour faire image. Un dictionnaire de la période constatera en conséquence qu'il y a maintenant peu de mots plus difficiles à définir. C'est aussi un fait remarquable qu'aucun parti politique en France, contrairement bien sûr à la Grande-Bretagne, aucun parti politique d'importance ne se qualifiera de libéral en France. Quant au libéralisme économique, défini par la défense de l'économie de marché et l'affirmation des bienfaits du libre-échange, il n'a pratiquement à aucun moment constitué dans la France du XIXe siècle une idéologie qui ait véritablement eu de l'influence. Là aussi, une parenthèse s'était refermée, celle du libéralisme utopique du XVIIIe siècle et de la période révolutionnaire, je l'ai mentionné, qui avait vu dans le développement d'une société de marché le moyen progressiste de faire advenir une société des égaux, de mettre en place aussi un gouvernement à bon marché et en prime de promouvoir la paix entre les nations. À l'âge de la révolution industrielle et du capitalisme naissant, c'est au contraire l'idéologie protectionniste qui triomphera dans l'Hexagone. Alors que les manifestations pour l'abolition des corn laws battaient leur plein en Grande-Bretagne au début des années 1840, les voies libre-échangistes n'arriveront pas à s'imposer dans la France de la monarchie de Juillet. Les milieux d'affaires des grandes cités commerçantes, comme Bordeaux ou Marseille, de façon exemplaire, seront certes fortement mobilisés et tenteront de faire pression sur le gouvernement, mais ils n'entraîneront pas l'opinion et échoueront dans leur tentative de lobbying parlementaire. Ils perdront tout simplement la bataille des idées, parce que celle-ci était encastrée dans une logique des intérêts immédiats. Capitalisme et libéralisme n'ont ainsi pas eu histoire liée dans le pays de 1789. Les hommes forts du régime, comme Thiers ou Guizot, étaient aux antipodes d'un Robert Peel. En matière d'industrie, nous sommes des conservateurs, nous sommes des protecteurs, soulignera ainsi Guizot. Il ne s'intéressait d'ailleurs guère aux questions économiques et industrielles. Il n'avait pas de doctrine a priori en la matière. Et son adhésion au protectionnisme, pourrait-on dire, était purement politique, circonstancielle. Elle dérivait uniquement d'un souci de stabilité sociale. Et les deux termes de conservateur et de protectionniste étaient en conséquence pour lui totalement imbriqués l'un dans l'autre. Cette préférence française pour le protectionnisme à l'époque, dans ces années 1830 et 1840, se présentait en outre comme une forme de réponse à la question sociale. Le protectionnisme prétendait en effet proposer une alternative à l'accroissement des inégalités qu'accompagnait l'avènement d'un nouveau prolétariat industriel. Ce protectionnisme, selon ses propres termes, visait à constituer un travail national que l'on présupposait unifié face aux puissances de dissociation du marché. S'établissait donc là un lien entre égalité et critique de la concurrence. Charles Dupin, l'une des têtes pensantes du régime de Juillet, disait ainsi que grâce aux barrières douanières, je le cite, « la figure du prolétaire céderait bientôt la place à celle d'ouvriers regroupés sous l'égalité glorieuse du drapeau tricolore ». Une forme d'inclusion se substituant de cette façon au spectre de l'exclusion qu'incarnait le mot même de prolétaire pendant cette période. Pour rester dans le vrai, continuera d'ailleurs à dire Dupin, parlons d'ouvriers français et non plus de prolétaires. Le problème n'était donc pas celui de l'exploitation capitaliste aux yeux de ce pouvoir en place. C'était la concurrence, je cite, la concurrence cosmopolite qui était accusée de constituer le plus grave danger qui menaçait la classe ouvrière. Et l'antienne se fera idéologie officielle du régime. Signe des temps, le premier regroupement d'industriels français, le lointain ancêtre des confédérations patronales contemporaines, prendra le nom d'Association pour la défense du travail national. Le national-protectionnisme de l'époque se définissait aussi sur un mode sociologique, en opposant les figures du producteur et du consommateur. Les partisans du libre-échange, eux, mettaient logiquement en avant l'intérêt du consommateur, considéré comme le plus évident bénéficiaire d'une baisse des droits de douane sur les produits importés. Et les défenseurs d'une économie protégée récusaient, eux, ce raisonnement, car ils voyaient dans le consommateur l'expression d'une humanité abstraite, rabaissée à l'expression comptable d'un avantage immédiat, alors que le producteur, lui, était à l'inverse, considéré comme une figure beaucoup plus concrète, dont les intérêts étaient structurellement liés par toute une chaîne de dépendance et de solidarité et s'enracinaient sur le territoire. Pris ensemble, les producteurs faisaient donc naturellement corps, dessinaient un ordre social cohérent, s'inscrivaient dans la durée. Ils étaient donc logiquement conduits à épouser un point de vue patriotique. Les consommateurs, à l'inverse, n'étaient que de purs individus déterritorialisés, mus par le seul esprit libéral, comme le reprochera Mathieu de Dombasle dans son livre « De l'avenir industriel de la France », qui sera un des grands classiques de la période. Cette vision nationale protectionniste, structurellement illibérale, triomphera sur les mêmes bases sous la Troisième République, le nom de Méline la symbolisant. Le libéralisme économique sera alors toujours culturellement minoritaire et aucune œuvre d'envergure ne sera consacrée pendant cette période à un approfondissement de ses fondements et à sa légitimation, à l'exception peut-être, dans les dernières années du XIXe siècle, de Paul Leroy-Beaulieu. Mais en même temps, un nom qui était incapable de soutenir la comparaison avec le nom de John Stuart Mill en Grande-Bretagne. Et le nouveau dictionnaire d'économie politique de Léon Say, qui était un économiste célèbre de l'époque, qui fera référence à la fin du XIXe siècle, ne comportera même pas d'entrée libéralisme dans son dictionnaire. Seulement un article liberté économique affichant une prétention scientifique. Ce qu'il restait d'une prétention ainsi formulée s'effondrera avec la crise des années 1930. L'économie de marché sera alors presque unanimement considérée comme définitivement dépassée. Ceux qui donneront alors le ton et incarneront les idées nouvelles de l'époque, que l'on regroupera sous la bannière des non-conformistes des années 30, le répéteront à l'envi. Les critiques viendront d'ailleurs aussi du milieu industriel. L'une de ces voix les plus écoutées, celle d'Auguste Deteuf, qui a été le patron de Thomson Houston avant d'être le patron d'Alstom, rejoindra ce cœur critique en enfonçant le clou. Lui qui avait été l'auteur d'un livre à l'influence considérable dans les années 1920, les propos de Olivier Barenton, confiseur, publiera un retentissant article, La fin du libéralisme, qui fera référence. Le libéralisme est mort, avait-il lancé d'emblée. Il a été tué, non par la volonté des hommes ou à cause d'une libre action des gouvernements, mais par une inéluctable évolution interne. Il est donc inutile de tenter de le faire revivre. Ce constat, il était alors fait de toutes parts, à droite comme à gauche, dans les milieux intellectuels comme dans le monde syndical ou patronal. Le marché, disait-on, n'avait d'abord plus de sens dans un monde industriel développé, qui s'était concentré et dans lequel c'était dorénavant des cartels et des trusts qui imposaient leurs normes et leurs lois. Face à ces nouvelles puissances, seul l'État devait dorénavant être regardé comme ayant une capacité de régulation, son intervention étant du même coup reconnue comme incontournable. Et c'est parallèlement la notion de planification qui s'était imposée. Le plan, ce sera la grande idée neuve de cette période de l'entre-deux-guerres en économie. Et on parlera désormais de planisme comme du mode de régulation économique de l'avenir. Au point que même des personnes de droite s'intéresseront de très près, d'un point de vue technique, au fonctionnement de l'économie soviétique. L'enthousiasme technocratique a alors convergé avec les projets réformistes, comme ceux de la CGT, qui avait publié en 1934 le plan de la CGT, et les aspirations managériales de leur côté, pour mettre en place un ordre rationnel bien au-delà de ce que prétendait être le marché. C'est du même coup avec l'élaboration de plans de modernisation que l'on entendra remettre sur pied et diriger l'économie française après 1945. Les partisans d'un capitalisme de marché étaient devenus une espèce rare. Tout au plus pouvait-on citer un nom, celui de Jacques Rueff, mais qui faisait figure de vieil attardé. Au tournant des années 70, par exemple, encore, c'est un sixième plan dans lequel se discutait l'organisation du moyen terme, l'intervention de l'État, les conditions d'encadrement de la croissance. On croisait dans ces commissions les hauts fonctionnaires, les syndicats, des représentants d'associations et de multiples experts, le patronat. Je m'étais intéressé de près à cette histoire parce que j'avais eu, dès mon arrivée à la CFDT, la tâche de coordonner techniquement l'intervention des représentants de la Confédération dans cette préparation du sixième plan, participant en outre directement à la Commission de l'économie générale. Et j'avais par ailleurs, à un niveau que l'on pourrait qualifier de plus idéologique, largement contribué à la rédaction d'un important rapport du Congrès de 1970 de la CFDT, celui qui définira la philosophie générale de la centrale au sortir de 1968, qui avait pour titre « Planification démocratique et autogestion ». Tout cela faisait que je n'étais en rien préparé à m'intéresser de façon approfondie au libéralisme et à son histoire, et encore moins à concevoir que cela puisse avoir un quelconque intérêt intellectuel. C'est pourtant ce qui allait se passer, et je vais expliquer comment et pourquoi.
Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui, effervescence intellectuelle et retour du libéralisme.
« En écrivant l'âge de l'autogestion à l'été 1975, j'avais lu la théorie politique de l'individualisme possessif de Macpherson, un ouvrage classique d'histoire des idées qui venait d'être traduit en français. Ce classique de l'histoire des idées m'avait conduit à me plonger dans Hobbes et Locke, deux auteurs qu'alors presque personne ne lisait en dehors des universitaires spécialisés. Et cela avait été un choc pour moi. Alors que ma curiosité intellectuelle s'était jusqu'alors cantonnée aux marches critiques et dissidentes du marxisme, j'avais entrebâillé la porte d'un monde qui avait l'attrait de l'inconnu, j'allais dire aussi de l'incongru. La notion de propriété de soi, qui était centrale dans l'œuvre de Locke, m'était ainsi parue intéressante pour traduire et instrumentaliser une aspiration de l'époque à voir les individus dotés des moyens d'inventer leur vie personnelle. D'autres notions, comme celle de société civile et d'autonomie, qui s'étaient imposées dans l'après-1968 comme élément d'une nouvelle langue politique, propre à exprimer les mutations du présent, faisaient ainsi signe à des conceptualisations voisines du XVIIIe siècle. J'avais du même coup rédigé une longue note de travail que j'avais intitulée « Libéralisme et autogestion ». Et j'en avais reproduit quelques éléments dans le livre. Actualiser le libéralisme de Locke, pouvait-on y lire, ce n'est plus défendre la propriété privée, c'est au contraire, logiquement, poser le principe de la socialisation des moyens de production et d'échange. C'est ce qu'avait très intuitivement ressenti une partie du mouvement ouvrier qui identifiait le socialisme à un libéralisme social avec les mots d'ordre du type « la mine aux mineurs ». Mais, ajoutais-je immédiatement, montrant mes interrogations, le projet libéral n'est-il pas, dans son originalité, anachronique ? Car l'actualiser en posant le principe de la socialisation des moyens de production, n'est-ce pas justement l'amener à se nier ? La proposition autogestionnaire, fondée sur la propriété sociale des moyens de production et la planification démocratique, consonne, certes, avec le projet libéral de limitation du pouvoir étatique et d'un pouvoir propre de la société civile. Mais permet-elle justement de dépasser les apparentes contradictions qu'implique une actualisation du projet libéral ? Telle était la question, disais-je. Avait été ainsi posée une question dont la réponse était restée en suspens. Fait significatif, aucun des comptes rendus du livre n'avait relevé ce qui pouvait apparaître en soi, soit comme une sorte de digression inutile, soit comme un développement un peu suspect. Ni Michel Rocard, qui avait fait son éloge dans Nouvel Observateur, ni Alfred Sauvy dans Le Monde, ni même la recension du monde diplomatique, n'avait commenté ces pages. Ni non plus les longues notes dans les très académiques Sociologie du travail en France et The American Political Science Review aux États-Unis qui avaient recensé le livre. Ni les multiples recensions dans la presse militante, y compris trotskiste. Aucun écho direct non plus de la part des nombreux lecteurs, dont beaucoup étaient des militants syndicalistes et politiques de gauche, voire d'extrême gauche. C'est dire que cela n'était pas apparu comme constituant un sujet. Avait fait exception, mais publié un peu plus tard, un article publié dans le premier numéro de la revue Commentaire, qui était édité sous les auspices de Raymond Aron. Jean Béchler, recensant le livre, y avait dit qu'il ne voyait pas la moindre différence entre le libéralisme et l'autogestion. Cela m'avait intrigué et confirmé en tout cas dans l'idée qu'il y aurait une piste à creuser en interrogeant les premières expressions libérales d'un idéal d'émancipation. Mais je sentais bien en même temps que le problème n'était pas tant de redécouvrir une doctrine oubliée que de comprendre un moment intellectuel et politique. Ce moment, celui des premières formulations du programme moderne d'émancipation. Pensant qu'au-delà des énormes et évidentes différences de contexte, il y avait peut-être des choses intéressantes à retrouver. Cette idée de retourner à des formulations anciennes de l'émancipation n'avait pas seulement trouvé sa source dans la rencontre avec la notion de propriété de soi, chère à Locke. Elle était venue plutôt de ma fréquentation de la littérature ouvrière et socialiste du XIXe siècle, dont j'ai parlé précédemment. C'est la centralité, en effet, du mot d'ordre d'abolition du salariat qui m'avait là frappé. Mot d'ordre qui me semblait retrouver une nouvelle pertinence avec la perspective autogestionnaire. Et avec la vision historique aussi que je me suis maintenant forgée de l'histoire de l'émancipation et de ses différents moments, là, le parallèle m'apparaît évident. Mais j'avais déjà l'intuition assez forte que si les années 1970 marquaient une rupture avec les théories sociales et politiques dominantes au XXe siècle, cela invitait à penser le neuf avec une forme d'appui à préciser sur les formulations et les conceptualisations antérieures que l'on pourrait qualifier de premières de l'émancipation. Cette recherche d'un tel point d'appui, je sentais confusément qu'il faudrait la lancer dans trois directions. Avec un retour aux Lumières d'abord. Lumière continentale, avec le rappel de l'appel kantien à organiser la sortie de l'homme hors de l'état de minorité, selon sa célèbre formule. Mais les Lumières écossaises également. J'étais arrivé à leur porte en déroulant le fil de l'œuvre de Locke. Car elle aussi avait proposé de penser l'émancipation, mais cette fois sur le mode d'une soustraction à toute forme de dépendance personnelle dans la sphère économique, grâce au mécanisme anonyme du marché. À côté du retour aux Lumières continentales ou écossaises, retour à la Révolution française, en second lieu. Et c'est là une expression d'Ernst Bloch dans « Droit naturel et dignité de l'homme » qui ne m'avait pas quitté depuis que je l'avais vu cité dans un texte d'Henri Lefebvre. Ernst Bloch avait écrit « La lumière de 1789 persiste toujours totalement ». C'était suggéré qu'il y avait là encore un héritage à revendiquer, à faire fructifier et à activer. Un héritage qui présupposait que 1789 n'avait pas simplement été un moment passager, une étape de transition, celui d'une révolution bourgeoise, ensuite accomplie et dépassée par l'impératif d'une révolution sociale, forme véritable de l'émancipation. J'avais pressenti qu'il y avait probablement là un autre moment dont j'ignorais tout à explorer pour revenir aux sources des premières formulations de l'émancipation. Retour nécessaire, enfin, c'est en troisième lieu, à la première histoire du mouvement ouvrier, je l'ai déjà dit, dans laquelle la libération du travail avait d'abord été comprise sur le mode de son indépendance, que ce soit sous les espèces d'un modèle coopératif ou donc avec le mot d'ordre général d'abolition du salariat dont il y avait une centralité véritablement de ce mot d'ordre dans le mouvement ouvrier du XIXe siècle. Alors que l'hippodrome d'un épuisement des figures et des formes constitutives de la deuxième modernité commençait à se faire sentir, un certain retour à l'origine me semblait ainsi pertinent et même vital, tout en restant encore très vague, en soulignant avec force que ce retour n'avait pour moi rien de passéiste, ce avec quoi il s'agissait en effet de renouer, n'était pas de l'ordre de modèle auquel il aurait fallu donner une nouvelle jeunesse, comme s'ils avaient retrouvé une actualité dans leur historicité native. C'était plutôt des inaccomplissements, des tâtonnements, des échecs, des perversions, des bifurcations qu'il s'agissait à l'inverse d'appréhender. Le but étant de comprendre pourquoi et comment des projets d'émancipation s'étaient enlisés, comment ils avaient été détournés et dégradés, comment certains éléments d'utopie qu'il renfermait s'étaient retournés en forme de domination. Habermas allait publier quelques années plus tard un article célèbre ayant pour titre « La modernité, un projet inachevé ». Un article qui était publié en 1981 dans la revue Critique. Je ne pouvais évidemment pas connaître cet article à cette époque, mais c'est bien dans ce type de direction qu'il me semblait devoir aller. Et c'est alors que j'ai commencé à passer mes week-ends, d'abord à la bibliothèque du Centre Pompidou, déjà ouverte le dimanche, puis que j'ai ensuite pris ma carte à la Bibliothèque nationale pour commencer un travail dont je n'imaginais pas qu'il continuerait jusqu'à aujourd'hui. Le terme de libéralisme était celui qui paraissait le plus simple à utiliser pour qualifier de façon commode et ramassée cette première génération des paradigmes de l'émancipation. Et c'est pourquoi je l'ai utilisé, en rappelant une fois encore qu'il n'avait pas, au milieu des années 1970, le sens que l'on peut lui attribuer aujourd'hui, avec le halo de significations diverses, confuses et bien sûr négatives qu'il charrie. Et aussi, celui qu'il commencera à prendre, mais seulement quelques années plus tard, avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979 et l'entrée en fonction de Reagan en 1981. N'oublions donc pas cette périodisation pour comprendre, et ce sera le cas, nous le verrons ensuite avec Michel Foucault, cet attrait dans les années 1970, au milieu des années 70, pour le libéralisme. Et si Giscard d'Estaing avait certes parlé de libéralisme avancé, cela m'était alors apparu dans sa bouche comme une façon, que je dirais, vieille France de paraître moderne et de faire écho aux attentes nées en 1968. Le terme renvoyait essentiellement pour moi à des éléments historiques et intellectuels. Il oscillait en fait entre son acception américaine, évoquant de façon générique une vision progressiste du monde, et un qualificatif politique des premières décennies du XIXe siècle. Sa connotation économique ne faisait de son côté écho qu'à un monde dépassé et disparu. Il était donc, ce terme libéralisme, encore vierge et ne s'était pas encore pollué, si je puis dire, et connoté politiquement par les basculements du présent. Au moment où j'entreprenais le travail qui allait déboucher sur la publication en avril 1979 du livre « Le capitalisme utopique », j'avais une idée assez vague en tête, comme c'est souvent le cas lorsqu'on débute une recherche. C'était, comme je l'ai rappelé, d'explorer les différentes figures originelles de l'idéal d'autonomie des individus. J'avais déjà commencé à me plonger dans toute la littérature ouvrière du XIXe siècle, que je connaissais déjà assez bien, sur la revendication d'indépendance et le rejet du salariat, je l'ai dit, comme façon d'organisation systématique de la dépendance. Et je savais que j'avais certes encore beaucoup à découvrir dans cette direction. Mais j'avais en même temps le sentiment qu'avec ce développement de ma connaissance du mouvement ouvrier, je ne découvrirais rien de neuf sur le fond. Et que l'enjeu de lecture supplémentaire était surtout de prendre pleinement conscience de la puissance d'une aspiration qui avait été ensuite longtemps minimisée dans l'histoire sociale et qu'en revanche, l'histoire sociale du début des années 70 avait commencé à revaloriser et à réhabiliter. Des lectures supplémentaires dans ce domaine de l'histoire sociale auraient en fait, je le pressentais, un intérêt essentiel qui était d'ordre comparatif. C'est de bien voir ce qu'était la spécificité américaine de cette question comparée à celle du mouvement ouvrier et de la vie sociale en Europe. Le deuxième chantier, celui de la Révolution française, c'était un front tout simplement qui était absolument hors d'atteinte pour moi. Tant était considérable l'investissement à faire pour simplement rentrer dans le sujet. Et le fait qu'à l'époque, l'histoire de la Révolution française ne pénétrait dans je dirais, la culture générale que de façon extrêmement limitée. Et il faudra, j'y consacre plus tard, une quinzaine d'années, à partir de 1985, pour maîtriser un certain nombre d'éléments essentiels de cette histoire et pouvoir essayer d'en tirer profit. Restait donc le troisième champ, celui du libéralisme et notamment celui des conceptions économiques de l'autonomie de la société civile. Conception que j'avais approchée avec la lecture de l'essai sur l'histoire de la société civile de Fergusson que j'avais découvert peu après le traité du gouvernement civil de Locke. Tous ces ouvrages, enfin Locke était évidemment traduit et disponible en français à la librairie Vrin, mais Fergusson ne sera traduit qu'une quinzaine d'années plus tard. Il y avait aussi tout un début d'activité et d'actualité intellectuelle autour de cette question. Plusieurs livres clés, et qui sont restés des livres majeurs, venaient d'être publiés en ce milieu des années 70 sur cette question de l'idéologie économique et de l'autonomie des individus. Le premier livre publié dans cette direction était le livre de l'anthropologue Louis Dumont, qui venait de publier en 1977 « Homo Equalis » avec comme sous-titre « Genèse et épanouissement de l'idéologie économique ». La même année, Albert Hirschman livrait « The Passions and the Interests, Political Arguments for Capitalism Before Its Triumph ». Le livre a été traduit quelques années plus tard seulement. Dumont était un anthropologue, spécialiste de l'Inde, et qui avait donné dans les années 1960 un livre très remarqué qui a vu pour titre « Homo Hierarchicus », qui était un essai théorique sur le système jugé archaïque des castes et une réflexion sur les conditions dans lesquelles ce système archaïque perdurait dans l'Inde moderne. Après avoir, dans ce livre « Homo Hierarchicus », décrit le prototype d'une civilisation qu'il avait qualifiée de holiste, le terme de holisme était déjà un terme admis, mais c'est, on peut dire, Louis Dumont qui lui donnera une véritable centralité conceptuelle à ce moment-là. Face à ce prototype d'une civilisation holiste, l'Inde des castes, il s'était proposé d'explorer la spécificité de la société individualiste et égalitaire moderne, elle. Et c'est cette lecture de Louis Dumont, qui sera d'ailleurs ensuite membre du jury d'un de mes livres, cette lecture de Louis Dumont m'avait conduit à lire Mandeville et sa fable des abeilles, et c'est en lisant ce livre, Homo Equalis, que j'ai découvert des textes d'Adam Smith qui m'ont donné envie de découvrir les figures clés de l'école écossaise.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Aujourd'hui, effervescence intellectuelle et retour du libéralisme. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Je rappelle son dernier ouvrage, Le Bon Gouvernement, publié en Point Seuil en janvier 2017. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous retrouverons les grandes explorations et l'effervescence intellectuelle et politique des années 68 à aujourd'hui avec Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, c'est Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.